Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 148e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu gaming, app, culture et tech, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Monsieur Fasquille.
Est-ce que ça va bien?
Mais oui, évidemment. On l'a dit la semaine dernière, ça va toujours bien. C'est notre moto maintenant. Parce que sinon, on est là genre,
Et non, les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça.
Non, surtout après, on est obligé de leur parler. Voilà, on va être reconfinés bientôt. Tout va bien, les gars. C'est là, voilà, vous écoutez Torréfaction, tout se passe bien. On va dire du mal de gens qui ne sont pas vous. Enfin, j'espère. Sinon, désolé. Ça va être génial.
Et on commence avec le gaming, avec le tube du moment. C'est ironique, bien évidemment, puisqu'on va parler de Serious Sam 4.
Ah là là. Oui, c'est pour ça que je disais dire du mal. Mais bon, je pense pas qu'ils écoutent des podcasts en français, les développeurs, parce que vraiment, ça m'attriste un peu. Donc, on attendait une suite à Serious Sam. Est-ce qu'on attendait une suite, déjà? Je ne suis pas certain. Ça fait 10 ans que le Serious Sam 3 est sorti. Et du coup, on se mange au quatrième épisode. Et je vais commencer par deux notes. Comme ça, vous allez avoir l'ambiance directement. Gamekult, tu as collé un petit 2 sur 10.
Mmh.
Oui, parfaitement.
Okay.
Et JV.com, qui est quand même, tu vois, notoriously gentil, normalement. Ils ont été méga larges. 10 sur 20. Mmh. Alors, 10 sur 20 sur JV.com. Et en plus, quand tu lis le texte, on est dans du 5, en fait, hein, tu vois. Genre, la violence est totale. Il n'y a pas grand monde pour en dire du bien, et c'est un petit peu normal. Donc, Serious Sam 4, pour ceux qui débarquent, c'est un FPS qu'on appelle du fast FPS, normalement. Un FPS un peu bourrin, voire très très bourrin.
C'est à la painkiller, quoi.
Mais je suis pas sûr que ta référence parle aux gens qui n'ont pas les cheveux gris, mec.
Moi, je suis sûr qu'il y a des gens aux cheveux gris qui nous écoutent.
Tu vois, il y a des trucs plus modernes qui sont sortis, mais disons que... Bon, oui, non, il y en a plein. Puis il y a même des gens qui ont pas de cheveux, on les connaît. Hein. Mais très honnêtement, la problématique, c'est qu'on est sur en 2020 des attentes qui sont plus proches des Doom et des remakes de Doom, que ça plaise ou non, avec des moteurs graphiques intéressants, avec un scénario peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon, qui emmène l'action correctement. Et sur Serious Sam 4, t'as pas tout ça. Donc c'est un truc qui est disponible sur Steam, Stadia, PS4, Xbox One plus tard. Donc PS4 et Xbox One plus tard. Ok, ça, j'ai pas été très clair. Donc les versions consoles ne sont pas pour tout de suite. C'est fait par un studio qui fait tous les Serious Sam depuis la nuit des temps, qui s'appelle Crow Team, et clairement, bah là, ils nous ont quand même raclé les fonds de tiroir pour nous sortir ce truc-là. Il y a 12 heures de jeu, a priori, tu vois, moi je ne l'ai pas terminé encore, et je ne sais pas si j'aurai la force de le terminer, sont extrêmement lassants, parce que là, j'ai joué peut-être, 4-5 heures. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de continuer. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, tu es sur un scénario et une mise en situation qui est vraiment pénible, c'est-à-dire que t'as des vannes sous la ceinture, les cinématiques te rappellent les meilleures heures des jeux des débuts des années 2000. On est sur un moteur 3D qui est vraiment pas bon, ça bave de partout, les textures sont moches, il y a pas grand-chose à l'image et pourtant c'est pas ultra rapide. Et du coup, tu te retrouves vraiment avec un titre qui, bah, même s'il était sorti il y a 5-6 ans, ça aurait déjà pas été extraordinaire. Donc en 2020, c'est compliqué. En revanche, ce qui peut le sauver aux yeux de quelques joueurs, c'est qu'ils ont quand même conservé l'esprit du truc qui est les vagues de monstres. Parce que la grosse différence par rapport à plein de fast FPS, la marque de fabrique de Serious Sam, c'est de te balancer dans des arènes avec des vagues de monstres, mais genre par paquet de 500. Ouais. Alors j'exagère, hein, c'est pas vraiment par paquet de 500.
Mais c'est l'impression que ça donne.
Voilà, il y en a beaucoup plus que les autres. Tu recules, tu dis « Ah, j'ai plus de balles, faut que je change d'arme, machin. »
Ils sont partout.
Voilà, c'est vraiment ça le but du jeu. Et bon, si ça vous intéresse, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est un peu ça tout le temps. Et vraiment, tout l'enrobage du jeu a vraiment du mal à te faire rester. Bon, je suis un petit peu déçu. Moi, j'en attendais quand même beaucoup plus, surtout que le truc à l'install fait genre 34 gigs, un truc comme ça. Donc, je m'étais dit, bon, allez, ils ont quand même réussi à upgrader le game. Non, c'est vraiment pas terrible. Donc, attendez une méga promo. Sinon, ça va être un petit peu dommage pour vous. Parce que sinon, à 40€, voire à 50€ en Deluxe Edition, c'est franchement très, très cher payé. Et je ne vous cache pas que ça ne les vaut pas. Même si vous cherchez un défouloir un petit peu violent, je pense qu'il y a moyen de trouver un petit peu moins daté. Donc voilà, je suis désolé. On espère qu'on aura quelque chose de plus sympathique dans le genre FPS à vous proposer bientôt.
Ouais, bah pas tout de suite en tout cas, puisqu'on va parler d'Hyperscape.
Cette transition, paf, paf, paf. Alors Hyperscape, c'est le Battle Royale d'Ubisoft. Oui, je suis obligé de préciser, parce que je pense que vous aviez déjà tous oublié. Alors, ça se passe pas bien, hein, mais comme prévu, quand on l'a testé, on avait dit ils vont avoir du mal à se faire une place, parce que c'est un peu too little, too late, comme disent nos amis américains. Et effectivement, dans un post sur Reddit, Ubisoft confirme que ça se passe pas très bien, mais évidemment, dans des mots que le marketing approuve, évidemment. Hein, et on se retrouve avec l'ajout d'un aim assist sur les consoles pour essayer de faire en sorte que nos amis au pad ne soient pas en galère comme c'est le cas actuellement. C'est un jeu extrêmement rapide avec un gros focus sur la verticalité et forcément au pad ça demande des changements de direction dans tous les sens un petit peu violents et sans aim assist version XXL au paddle c'est l'enfer. Donc ils se disent bon les gars ils viennent déjà pas donc là on va essayer de faire un truc un petit peu plus friendly pour eux et puis en plus ils rajoutent des nouveaux modes de jeu pour faire en sorte que ça décolle un petit peu parce que je ne vous cache pas que pour l'instant si vous trouvez un lobby vous restez dedans pendant un grand moment puisqu'il n'y a pas assez de joueurs en fait pour faire démarrer la partie. Du coup ils vont baisser le nombre de joueurs par map. Bref, c'est en train de bricoler pour faire en sorte que le truc ne meure pas. C'est le problème des Battle Royale, je l'ai déjà évoqué plein de fois. Quand un Battle Royale commence à crever, même s'il y a un petit noyau de joueurs, si vous n'avez pas des parties qui se déclenchent très rapidement, ça va précipiter la fin du jeu puisque les mecs n'arrivent pas à jouer, donc ça les fait chier, donc ils vont voir ailleurs et c'est le drame. Donc voilà, je pense que nos amis de chez Hyperscape se préparent un hiver un petit peu compliqué.
Allez, une petite séance copinage. Je voulais vous parler d'un point and click. Bah oui, écoute, pas de raison. Dont on parle depuis longtemps sur Geekzone, puisque c'est Lancelot's Hangover, la gueule de bois de Lancelot, littéralement. C'est un point and click dont on parle depuis 2015 sur le site.
Ah oui.
Et enfin sorti officiellement ici sur Steam. Alors, c'est un point and click médiéval et humoristique qui est développé par un petit gars tout seul, un petit belge en solitaire, qui s'appelle Jean-Baptiste de Clairfailly. Et le pitch est très con. On incarne Sir Lancelot, le plus sexy des chevaliers de la table ronde, et Dieu va nous confier la mission de retrouver le Saint Graal, de le remplir d'alcool et de faire la fiesta. Alors, si vous aimez les point and click et que vous n'êtes pas allergique à l'humour irrévérencieux, référentiel belge, mais j'allais le dire parce que c'est très référentiel, notamment par rapport à plein de choses qui touchent à la culture belge, en fait, même si c'est compréhensible par les Français aussi, j'en suis sûr. Il y a notamment un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est on a une carte de l'Europe, en fait, il y a les très terrifiants vikings belges qui sont représentés par des espèces de schtroumpfs. Enfin, c'est complètement absurde. C'est très Monty Pythonesque. Hein, donc, si vous aimez ça, ça pourrait vous plaire. Graphiquement, c'est assez particulier. Donc, ça sera pas au goût de tout le monde non plus. C'est des dessins à la main qui sont assez inspirés des illustrations médiévales. C'est assez chaotique. Ça fait un peu penser à ce que faisait Guillaume, justement, chez les Monty. C'est assez court aussi. Je dirais que c'est entre 3 et 4 heures pour le terminer. Il y a quelques petits soucis d'interface. Pas toujours très, très grave, mais bon, voilà. Je voulais le signaler quand même, rien de rédhibitoire, et c'est en promo à 10 balles pour le moment sur Steam. Donc voilà, si vous cherchez un petit point and click à vite faire en une soirée, et si vous aimez les trucs un peu rigolos et un peu délirants, je vous conseille d'aller jeter un œil sur Lancelot's Hangover. Et
puis on va rien parler du tout. Moi, je veux savoir, est-ce que tu bois des coups avec son développeur?
Non, je bois pas des coups parce qu'on peut pas, c'est Covid. Mais
mais sinon, tu pourrais.
Ah, je te confirme qu'il est sur Bruxelles, donc effectivement, je pourrais aller boire des coups. Alors, c'est un pote de pote, en fait, donc on s'est jamais rencontré, mais il m'avait contacté il y a 6-7 ans maintenant pour me dire, tiens, je suis en train de bosser sur un petit jeu tout seul, est-ce que tu veux pas en parler? À l'époque, on avait créé un thread sur Geekzone, et puis on avait fait une petite news, je crois, en 2016 pour relancer un peu l'intérêt autour du jeu quand il était passé en accès bêta, si je dis pas de bêtises.
D'accord.
Et donc voilà, là, il m'a relancé il y a pas longtemps, en disant, écoute, ça sort le 1er octobre, donc si tu veux en parler, n'hésite pas.
Ce mec ne sait pas à quel point il va te devoir des bières, donc le truc élevé, hein, ça va lui coûter un bras. C'est un vrai plan marketing, hein, il faut qu'il le sache.
J'ai une vision long terme en ce qui concerne les bières, donc voilà, je planifie. Bref, on reste dans le gaming avec des news d'un jeu qu'on aime bien, cette fois-ci, plutôt que de parler des FPS qui nous emmerdent. Voilà, on va parler d'Apex Legends.
Apex Legends qui continue d'évoluer et on en avait parlé il y a un petit moment déjà, mais qui a enfin balancé une date pour son crossplay. Donc on va enfin pouvoir jouer entre PlayStation, Xbox, PC, en tout cas via Origin avec la version Steam quand ça sera dispo. Ça devrait marcher aussi et ça sort en version bêta le 6 octobre. aux côtés de ce truc-là, c'est que ça permettra de remplir les lobbies plus vite, même si ça va déjà très très vite. Hein, le jeu fonctionne encore très bien, il n'y a pas de souci. Mais à terme, c'est un truc qui est hyper important. Tous les jeux modernes le font, donc c'est important d'avoir ça sous la main. Je pense que d'ailleurs, quand je dis jeux modernes, je crois que je n'inclus pas PUBG, mais PUBG n'est pas très moderne dans certains trucs, donc c'est pas étonnant. Le tout est accompagné d'un nouveau mode de jeu. Alors, ils en font régulièrement des modes de jeu un petit peu, ils sont pas tous passionnants, j'ai envie de te dire, mais c'est des trucs qui sont temporaires. Ça leur évite aussi d'avoir la communauté qui s'éparpille un petit peu partout. Et ils vont enfin donner ce qu'on appelle les heirlooms, c'est des espèces d'accessoires supplémentaires que tu peux avoir comme des skins si tu veux sur certains persos, au meilleur personnage du jeu qui s'appelle Caustic, qui est le perso du cancer, hein, qui est donc mon perso préféré. C'est un mec qui met des petites bonbonnes de gaz, hein, pour ceux qui jouent pas du tout à Apex. C'est un mec qui est assez pénible quand tu dois contourner, passer dans des endroits un petit peu fermés. Et évidemment, j'aime beaucoup ce personnage. Et il a des phrases, des catchphrases, parce que tous les persos d'Apex parlent quand il y a certaines actions et tout. Et lui, c'est un homme de science. Voilà. Mais il veut te regarder mourir pour savoir comment tu meurs, en fait. Tu vois, j'aime beaucoup l'humour qu'il y a dans Apex sur certains trucs. D'ailleurs, c'est un très bon boulot qui a été fait sur un autre titre auquel on joue pas mal avec la communauté de Geekzone en ce moment, qui est Valorant, où justement les phrases de certains persos sont vraiment très bien trouvées. Dans Apex Legends, il y a un gros boulot autour de ça. Donc voilà, donc ce crossplay est dispo le 6 octobre et on verra ce que valent les gens au paddle, parce que je ne sais pas comment ça va être géré, ça, par contre. Hein. Ça sera la surprise. Est-ce qu'on va être clavier-souris avec des mecs dans sa team qui sont au pad en galère? On verra bien ce que ça donne. C'est pour ça que ça sera en bêta au début.
Et puis on va parler d'un jeu chinois, Genshin Impact.
Alors vite fait, on va surtout parler de son lancement, parce que je n'y ai pas joué du tout. J'ai vu la terre entière en train de le streamer. Et effectivement, Genshin Impact, c'est un truc qui cartonne en ce moment. Alors que c'est un free-to-play, gacha, c'est-à-dire qu'avec des trucs à débloquer. Donc un piège à temps et à argent à la base, hein, comme plein de free-to-play. Mais c'est le plus gros lancement mondial pour un jeu chinois. On a les chiffres qui sont tombés là. Et on se retrouve avec un succès incroyable, mais pas surprenant dans le sens où le jeu est franchement réussi graphiquement. On est sur un titre qui a coûté 100 millions de dollars, 3 ans de dev, et qui est disponible, et ça c'est techniquement assez fort, sur PC, PS4 et mobile. Et franchement, la version mobile, quand t'as un truc un peu costaud, c'est vachement réussi. Ça va sortir sur PS5 et Switch, a priori. Alors, c'est des rumeurs. Pour l'instant, on n'a pas de date. La grosse surprise, c'est qu'effectivement, le jeu est tellement cartonné qu'on se retrouve avec 1 milliard de streams sur Twitch autour de ce truc-là. Pourquoi? Parce que on est sur un look un petit peu sympa qui est complètement pompé, hein, sur Zelda Switch. Donc, bon, là-dessus, il n'y a pas trop de surprise, c'est aussi pour ça que les gens étaient un petit peu attirés au départ. Là, le truc qui est hyper important, c'est de voir ce que ça va donner dans quelques mois. Parce que là, on a quand même sur 16 millions de joueurs chinois préinscrits, plus de 5 millions de joueurs étrangers qui sont aussi inscrits, le nombre de downloads d'installations est en train d'exploser. Il y a une espèce de cabinet qui analyse les téléchargements d'applications, etc., qui s'appelle Apani, qui estime que rien que la version Android et iOS, c'est 17 millions de téléchargements sur le lancement, c'était le 30 septembre.
D'accord.
Donc, c'est le gros carton. Et je suis très dubitatif sur le gameplay à terme. C'est-à-dire que les gachas et ce genre de jeu, comment ça fonctionne, c'est qu'au départ, tout va très vite. Le jeu te balance un max de récompenses, te fait progresser ton personnage hyper vite, etc. Parce que, justement, on veut t'accrocher. Et puis, au bout d'un moment, ça va commencer à se tasser. Puis, on va te dire, hey, si tu mets ta carte bleue ici, tu vas pouvoir avoir ce truc-là et t'auras pas besoin d'attendre. Donc, c'est un peu le principe de base de tous les gachas. Écoute, je vois pas mal de commentaires de mecs qui disent, bon, franchement, si t'es patient et que t'as envie de marrer sans te prendre la tête, tu peux jouer et t'amuser sans sortir 1 euro. À voir. Donc j'ai décidé de le tester. En fait, je voulais en parler. J'ai pas du tout eu le temps cette semaine. Donc j'en reparlerai certainement quand j'aurai eu le temps de perdre quelques heures dans ce truc-là. Et je vous dirai ce que j'en pense et c'est la gueule que ça a sur un PC. Parce qu'en fait, je l'ai testé en loose day, mais 3 minutes pour voir si ça tournait. Je fais partie des millions de téléchargements sur Android. Donc je verrai la tronche que ça a. Je verrai si c'est adapté à l'iPad aussi. J'ai pas eu le temps de regarder. Et puis on en reparlera. Mais en tout cas. Voilà, si vous voyez vos gamins se lancer là-dedans, planquer vos cartes bleues, ça peut mal tourner quand même.
Et puis c'est déjà Noël dans l'espace. Hein.
Ouais, Monsieur Frontier annonce des petits ajustements sur Elite Dangerous, parce que comme tu le sais, il y a un DLC depuis des années qui s'appelle Horizon, qu'il fallait acheter à part, quand on n'avait pas pris les packs ou qu'on n'avait pas fait le Kickstarter avec full option à l'époque. Dans, voilà, c'était il y a déjà...
trop longtemps.
6-7 ans, ouais, 6 ans. Mais là, Frontier, comme ils sont en train de préparer l'arrivée du nouveau DLC Odyssey, Horizon, en fait, va devenir gratuit à partir d'octobre. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous l'avez acheté, vous aurez droit à un petit truc exclusif. En l'occurrence, une peinture du plus bel effet qui marche sur tous les vaisseaux. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, de toutes les peintures, il faut le savoir. Qui est un petit bonus qui permettra de vous la jouer en disant « Moi, j'y étais, tu vois. » Voilà. J'étais là. Et Odyssey, bah, faudra suivre son développement de très près puisque ça fait partie des grosses, grosses évolutions d'Elite Dangerous qui, non seulement est toujours le meilleur dans son genre en termes de jeu, exploration spatiale, combat, etc. avec le meilleur comportement de vaisseau dans un titre de genre, qui, malgré les manques en termes de gameplay qu'on peut lui reprocher, ça, tout ce qui est la base d'un jeu de l'exploration spatiale, c'est-à-dire piloter des vaisseaux, ça ils le font très très bien. Eh bien écoute, là ils ont préparé quelques vidéos pour montrer ce qu'ils avaient dans stock, et il y a les Space Lake dont j'avais déjà parlé, c'est-à-dire qu'effectivement on pourra se balader sur certaines planètes et normalement à terme peut-être se balader dans ces vaisseaux, et comme il y a des vaisseaux qui sont un petit peu des palaces de luxe, ça sera rigolo de pouvoir se balader dans, même si fondamentalement ça ne sert à rien. Et comme je le disais déjà quand on en avait parlé il y a quelques semaines, j'espère qu'on va pas se retrouver dans les mauvais plans à la Star Citizen, n'est-ce pas?
Au hasard,
où on te rajoute des trucs parce que on peut le faire, mais en fait, tu te fais chier et t'as un gameplay qui t'emmerde. Et du coup, les petits gars de Frontier ont été assez malins sur ce coup-là, puisque, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. On verra ce qu'il en est dans les faits bientôt. Ils annoncent que si ça t'emmerde et que t'as pas envie de faire tout ça, excusez-moi d'être grossier, mais tu vois, j'ai un peu peur sur ce truc-là, eh bien, tu pourras rester le cul dans ton siège baquette, ton vaisseau. Et que tu seras pas du tout obligé de sortir pour aller voir s'il fait beau dehors. Et moi, ça, j'aime bien. C'est un discours que j'entends. Donc, si on me massacre pas mon gameplay sous prétexte que maintenant il faut sortir du vaisseau pour aller appuyer sur un bouton parce que c'est ta quête que t'as choisi, ça m'arrange. Parce que vraiment, 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 Star Citizen, c'est pas possible. Et puis bon, c'est pas un bon exemple, hein, mais parce que le jeu est pas fini, il le sera certainement jamais. Mais voir Elite copier ce genre de truc, ça m'a fait un peu flipper. Je fais, mais non, mais les mecs, c'est pas parce que les autres, ils ont pris 300 millions pour aller là-bas, quoi.
Ça sent les requêtes d'actionnaires, tu vois. C'est genre, on gagne plus assez de sous avec votre jeu, là, il va falloir faire un truc. Hein.
Ouais, mais Frontier, c'est une petite boîte, ils ont pas les mêmes besoins, les financer à peu près correctement, ça part pas dans tous les sens. Et David Braben, c'est pas un petit gars. Voilà, lui, il a fait des jeux toute sa vie, tu vois.
Ouais.
C'est pas comme j'expliquais dans un podcast il n'y a pas longtemps où on dénonçait les escrocs du jeu vidéo. Et je me suis évidemment occupé du cas de notre ami Chris. Et je rappelais que Chris, dans toute sa carrière, quand vous regardez, le seul jeu qu'il a vraiment fait de A à Z qu'il a terminé, c'était Wing Commander. Mais le 1. C'est-à-dire que dès le 2, c'est plus lui. Hein. Donc, et ça, les gens oublient un peu vite, quoi. Donc, non, le bon David, c'est un autre modèle. C'est pas du tout les mêmes épaules. Donc, on va voir ce que ça donne.
Allez, on passe du côté des apps avec Twitch Soundtrack. Qu'est-ce que ça donc?
Alors, est-ce que t'as entendu parler du bordel autour des droits d'auteur sur la musique sur Twitch?
Alors, sur Twitch, pas spécifiquement, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de recrudescence en ce moment dans tous les domaines, en fait, de surveillance, notamment de la RIA et de ce genre d'organisation. En fait, j'ai l'impression que vraiment, ils sont en train de serrer la vis. Je pense que c'est lié à Covid et au fait que le business de la culture, et plus particulièrement la culture côté musique, ça devient difficile en ce moment de gagner des sous. Donc, je pense qu'ils sont en train de voir où est-ce qu'ils peuvent un peu arrêter les hémorragies. Du coup, non, pas par rapport à Twitch, mais je suis pas étonné.
Bah voilà, donc Twitch, globalement, ils ont aussi serré la vis, évidemment, on leur a demandé gentiment de le faire.
C'est ça, ouais.
Et du coup, quand tu streams et que tu mets de la musique sur ton stream, ça provoque des petits problèmes qui peuvent aller jusqu'au strike de ton channel. Donc, sachant que il y a des gens qui en bouffent de faire du streaming de jeux vidéo, c'est un problème. Du coup, il fallait se démerder pour trouver de la musique libre de droit. Si tu mettais quand même de la musique normale, tu pouvais te retrouver donc avec déjà pendant les replays, parce qu'évidemment, en live, ils peuvent rien faire, la technologie n'est pas là, on est d'accord. Mais en revanche, sur les replays, la musique, le son est carrément coupé. Hein. Donc, si vous parlez avec un morceau connu derrière votre voix, tout est coupé, il n'y a pas de son, point barre. Ensuite, si des gens de votre communauté font des clips d'une action que vous avez fait sur un jeu, etc., et qu'il y a une musique en fond sonore, pareil, ce truc-là peut être report. Donc, tu peux te faire striker. Alors tu vas te faire retirer le clip, mais au bout tu vas te prendre un mail en même temps en disant hey, t'as utilisé ce truc là, c'est pas bien. Donc évidemment les mecs ont cherché des solutions et les gars de chez Twitch, ils ont été malins. En fait, ils te balancent une nouvelle application qui s'appelle Soundtrack, on y arrive, qui va te permettre en fait de jouer de la musique et de la balancer directement dans ton soft de streaming.
D'accord.
Et cette bibliothèque, en fait, imagine ça comme un Spotify pour Twitch où tout a déjà été pré-approuvé en fait.
D'accord.
Donc, c'est, en gros, c'est une très bonne idée. Et surtout, comme ils ont commencé à faire les deals par les petits, entre guillemets, bah, ça va mettre en avant pas mal de monde qui n'aurait aucune chance de se faire connaître via tout, Spotify, Apple Music, etc. Donc, pour l'instant, c'est plutôt un bon deal. Et pour les streamers et pour les musiciens qui cherchent un peu de reconnaissance, qui veulent un peu de visibilité. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, le soft s'intègre déjà dans OBS, Streamlab OBS et Twitch Studio. Et j'imagine que... dans StreamElements, ça doit fonctionner aussi, vu que OBS, c'est la base de StreamElements. Bref, c'est à voir. Je vais essayer ça très rapidement en stream de notre côté. Et puis, on verra ce que ça donne. Slash caféine hein, sur Twitch, évidemment. Meilleur, je stream une fois tous les ans, donc soyez là. J'exagère. Surtout quand je stream, j'embarque beaucoup de monde, dont toi, de temps en temps.
C'est vrai.
Sur des ambiances de jeu où on est super fort, faut le dire. Et on
c'est
dit,
ça.
Et on dit jamais de gros mots, donc évidemment. Donc, évidemment, moins de 18 ans interdit totalement. Hein, merci beaucoup. Donc voilà, on testera ça, on verra ce que ça donne. Je trouve que c'est une bonne idée pour répondre à une problématique un peu complexe.
Tout à fait.
Et en plus, c'est une opportunité de business. Ils sont malins chez Amazon. Ils sont malins.
J'ai juste une crainte, en fait, par rapport à ça. C'est qu'il y a une grosse recrudescence en ce moment sur Twitch de musiciens, justement, et de DJ qui font des sets live où vous montre comment ils composent des morceaux, etc. Et du coup, bah, ça va être difficile à intégrer dans un soft externe. Donc, je suis curieux de voir comment ils vont adresser cette partie-là du problème. Mais c'est déjà, vrai. C'est un pas dans la bonne direction et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Pour le côté gaming, c'est intéressant, surtout qu'en plus, Facebook Gaming est en train de prépare un truc du même acabit, tu vois. Donc, Twitch ne pouvait pas rester en reste. Mais en revanche, effectivement, je sais pas ce qu'il adviendra de mes potes, genre le DJ japonais fou que je t'ai balancé l'autre jour.
Tout à fait.
Et voilà, lui, il balance que des gros standards. Donc, je sais pas comment ça passera à terme, on verra bien.
Allez, on passe du côté de la culture et avant de vous parler d'un documentaire que j'ai maté hier, je vais faire un petit avertissement. C'est un documentaire à ne pas regarder si vous n'allez pas bien en ce moment. voilà. Parce que moi, ça m'a bien retourné et en ce moment, ça va plutôt bien. Donc, je vous préviens. Donc, ça s'appelle American Murder, The Family Next Door et c'est basé, donc, c'est un documentaire, donc c'est une histoire vraie. Je vous invite à ne pas vous spoiler l'histoire si vous ne la connaissez pas. Moi, je la connaissais pas du tout, donc je suis rentré complètement vierge dans le documentaire et il m'a bien retourné les tripes. C'est un documentaire True Crime qui est sorti avant-hier sur Netflix et ça raconte l'histoire de la famille Watts. Le point de départ, c'est qu'en 2018, la mère et les deux enfants disparaissent mystérieusement. Une voisine va donner l'alerte et on va suivre en fait toute l'investigation et c'est raconté exclusivement par l'utilisation d'images d'archives, donc des images qui ont été chopées sur les réseaux sociaux de la famille avant, pendant et après la disparition. Des caméras de police, des caméras de surveillance, genre t'as le voisin qui a une caméra devant son garage, on va avoir ce genre de trucs là par les SMS, etc. Donc il n'y a pas de narration en fait, il n'y a pas quelqu'un qui te raconte l'histoire, tout est vraiment mis en place par le biais de ces images d'archives, donc c'est assez chouette, c'est assez immersif. Bon, l'histoire est vraiment dégueulasse en revanche, donc voilà, j'insiste bien là-dessus.
Moi je connais l'histoire parce que je l'ai vu sur un docu YouTube en fait.
D'accord.
C'est en fait le truc assez connu, il y a une histoire de puits de pétrole à un moment.
Ouais, enfin pas de puits de pétrole,
pas
mais
de silos,
ouais,
enfin de stockage,
ouais, de silos, voilà, tout à
voilà.
fait.
Voilà, ouais. Bon, je spoil pas plus, mais d'accord, on parle du même truc et oui,
voilà.
C'est non, n'y allez pas si ça va pas, les gars.
Voilà, moi je connaissais pas l'affaire. Ça m'a vraiment retourné, d'autant qu'il y a vraiment un point dans le film où ça bascule et je m'y attendais pas en fait, parce que on a l'habitude des séries télé où on te manipule, où on t'envoie dans des directions et tout, tu te dis non, c'est pas possible, et en fait si, c'est possible. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ça s'appelle American Murder, The Family Next Door. Si vous êtes fan de documentaires criminels, foncez, c'est vraiment du tout bon, même si effectivement l'histoire derrière est un peu cracra. Donc pour me faire pardonner, on va parler un peu musique. Je voulais vous faire découvrir un artiste que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui s'appelle Ben Lucas Boysen. C'est un compositeur et un sound designer allemand. En fait, il fait des installations artistiques, il fait de la musique de film et des productions expérimentales. Alors, on va y revenir quand je parle d'expérimental. Rassurez-vous, c'est pas des petits blip 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 trucs bruitistes que personne ne comprend. C'est expérimental dans le sens, il va vraiment dans tous les sens. Il expérimente tous les types de musique. En fait, moi, je l'ai découvert via son dernier album qui s'appelle Mirage, qui est sorti le 1er mai dernier, qui était passé complètement sous mon radar. Du coup, merci au Discover Weekly de Spotify failli d'avoir rectifié le tir. Je suis complètement tombé sous le charme. On sent vraiment, comme je disais, cette veine expérimentale. Il expérimente plusieurs styles de musique, il les fusionne. Ça commence par un joli voyage ambient, puis on passe par du jazz, on a du classique moderne, on a de l'intelligent dance music. C'est vraiment super maîtrisé, super riche. Bref, c'était un gros coup de cœur pour moi. Je connaissais pas du tout le monsieur. Ça m'a donné envie d'aller creuser sa discographie qui comporte quand même 6 albums depuis 2007. Donc, il y a de quoi faire. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait donc de son dernier album qui s'appelle Mirage. L'extrait, c'est Clarion. Ben Lucas Boysen avec le morceau Clarion sur l'album Mirage. Et puis on va passer du côté de la tech. Il y a eu un truc Google, un event Google cette semaine, c'est ça?
Ouais, ils ont fait ça version Covid vénère, c'est-à-dire 30 minutes chrono. Et les mecs, ils ont annoncé du matos, plein de bordel. En 30 minutes, c'est du jamais vu. Hein. C'est genre, ok, on sait que vous en avez marre là. On va être assez rapide. J'ai retenu pas grand-chose, mais il y a un truc qui va faire qu'on va plus rien comprendre pendant 2 ans. Donc autant le dire maintenant. Android TV va disparaître, mais en fait non. C'est juste qu'en fait, Google TV va remplacer la marque Android TV au fur et à mesure des updates. Maintenant, en termes de fonctionnalité, il va y avoir évidemment des évolutions, mais les deux vont cohabiter, les deux vont se remplacer. Ça, on ne perd rien normalement dans la transition. Mm-hmm. En revanche, si vous avez des vieux devices, ceux-là ne seront jamais mis à jour. Et ça, c'est chiant, mais c'est normal. J'ai envie de te dire, côté Android, on est habitué. Donc on verra bien ce que ça donne. En revanche, il y a vraiment une volonté du côté de Google d'avoir des marques un petit peu plus centrées sur leur nom et puis d'avoir quelque chose d'un peu plus logique parce que comme en fait, si t'as remarqué ces derniers temps, ils parlent pas vraiment d'Android dans leur propre produit. Mm-hmm. Et c'est toujours Google quelque chose. Donc c'est un petit peu logique. Ça va faire chier leurs amis et néanmoins partenaires d'être obligés de mettre la marque Google partout et non pas Android. Voilà, c'est la vie les gars. Fallait faire votre OS. Débrouillez-vous. Donc on va suivre ça après, on verra comment ça évolue, mais pour l'instant, l'info, elle était là. Et ils en ont profité pour annoncer le Google Pixel 5 aussi, qui est un téléphone comme les rumeurs, si tu veux, on les a eues, ça fait des semaines, en fait, il y a des fuites, entre guillemets, de partout. Mm-hmm. On s'attendait à un téléphone milieu de gamme, c'est exactement le cas. Donc, c'est un téléphone qui va sortir à 629 €. Bon, c'est relativement raisonnable, sauf que vous en avez pas pour beaucoup plus cher en vrai, sauf si vous le précommandez, parce que quand vous le précommandez, vous allez avoir la possibilité d'avoir un casque Bose QC35 II avec, qui coûte une blinde normalement. On parle d'un truc, c'est pas un cadeau à 20 balles. Mm-hmm. Mais en revanche, bah, il faut précommander le téléphone. Et derrière, il faut, tu sais, c'est un système de bons. Et puis bah, après, tu attends pendant normalement ouais, 2 mois maximum pour avoir le casque. Il n'arrive pas en même temps, hein, ne rêvez pas. Pour revenir au Google Pixel 5, on est sur un téléphone qui va tourner sur un Qualcomm Snapdragon 765G. Donc c'est un truc compatible 5G. Cool, mais on n'est pas sur la série 8 des processeurs Qualcomm, on est sur un truc de milieu de gamme, en fait, qu'on va retrouver sur des téléphones chinois qui sont encore bien moins chers, qui est pas extraordinaire, mais qui fait le taf. Ça permet d'alimenter un écran 6 pouces OLED qui va être en 2160x1080. Donc ça, c'est propre, mais c'est pareil, on n'est pas dans la démesure. En même temps, sur un téléphone, j'ai toujours dit qu'on n'avait pas besoin de beaucoup plus. On est sur un téléphone avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, again. C'est pas délirant, mais c'est pas débile. Un téléphone IP68, donc qui résiste à l'eau et à la poussière, qui a une charge à induction réversible. Alors ça te permet de recharger tes écouteurs, genre sur ton téléphone.
D'accord, ça c'est bien ça.
C'est pratique quand t'es en galère et que t'as besoin et que ton téléphone est encore chargé.
C'est ça.
Il faut encore avoir de la charge sur ton téléphone. Là où on commence à tiquer quand même un peu plus, c'est sur le capteur de l'appareil photo, qui a un 12,2 millions de pixels, mais qui est un modèle qu'on a depuis plusieurs générations, en fait. C'est toujours le même capteur Sony. Depuis un moment, donc ça commence à faire un moment qu'ils auraient pu upgrader, donc bon, bref, on verra ce que ça donne. Il y a un capteur ultra grand angle qui refait son apparition. Il y avait l'ancien boss du hardware de chez Google qui avait dit ouais, le grand angle, on s'en fout, blabla, le téléobjectif, c'est la vie. Puis finalement, il s'est fait, tout le monde a hurlé. Donc le nouveau a décidé qu'on remettait un ultra grand angle, donc de 16 millions de pixels qui est dispo, et la cam selfie fait 8 millions de pixels. Et on a un déverrouillage qui se fait avec sa bonne vieille empreinte digitale, et oui, au dos de l'appareil, le truc hyper classique qu'on pensait avoir, voilà, qui avait disparu, parce que maintenant, oui, les capteurs, ils sont sous l'écran, on reconnaît ton visage et tout. Bon, ça s'est pas très bien passé, et vu le tarif qu'ils veulent viser avec ce téléphone, ils sont revenus des solutions qui sont pas chères et qui marchent, et ils ont pas eu besoin de se prendre la tête. Donc, tout ce qui était Soli, le projet Soli, c'est-à-dire la reconnaissance faciale, les mouvements au-dessus de l'écran qui vont te permettre de faire des trucs que personne n'a jamais utilisé sur la génération précédente, tout ça, ça dégage, sauf que le boss du hardware a dit, non, mais attendez, quand on fera des trucs plus chers, on les remettra, c'est toujours en dev et tout, mais là pour l'instant ça sont bon bah, c'était pas possible sur un téléphone à 600 balles, ça passe pas. C'est logique, donc il n'y a pas de test encore, tout ça c'était l'annonce. Il y a genre un unboxing qui se balade sur YouTube, donc faudra attendre un petit peu pour voir un peu ce que donne bah, entre autres l'appareil photo et puis vraiment la puissance du téléphone en lui-même, même si le processeur on connaît déjà, on l'a vu dans d'autres téléphones, mais voilà, le package est intéressant. Il vise clairement un milieu de gamme un petit peu boosté, et à ce tarif là j'ai envie de te dire que bon bah c'est pas extraordinaire, mais bon, ils vont avoir une grosse concurrence du côté des téléphones chinois, en fait. En revanche, si vous voulez l'expérience Android pure sans surcouche, bah, ça restera une bonne option, et on revient à des tarifs un petit peu intéressants quand tout le monde s'est envolé sur des flagships à plus de 1000 balles. Je pense qu'il y a quand même des gens qui vont être assez clients. On verra ce que ça donne. Je vous linkerai certainement dans les semaines qui viennent des tests quand ça sortira. Là, il y a vraiment, c'était juste l'annonce, donc il n'y a pas de test de disponible. Je suis désolé.
Google Pixel 5, donc, et puis on passe de l'autre côté de la barrière chez nos amis d'Apple avec la Watch Series 6.
Dont j'ai déjà parlé, en fait. Ouais. C'était juste pour vous linker, parce qu'on est déjà très long cette semaine. C'était juste pour vous linker une review extrêmement complète de chez The Verge, qui fait des mix en fait vidéo et review écrite. Et ça vous permettra de voir la gueule du single loop, donc leur super nouveau bracelet qui est en fait un seul anneau de silicone un petit peu bizarre, qui apparemment est extrêmement agréable au toucher. Et le testeur vous décortique toutes les avancées de WatchOS 7 et les petites avancées au niveau capteur, etc. de la Watch Series 6. Alors j'en ai une au poignet, hein, mais depuis hier, donc du coup je vais pas trop m'avancer. Je trouve le produit extrêmement intéressant. Après, il y a pas mal de trucs qui sont encore améliorables, mais pas pour la montre, pour moi. C'est-à-dire que c'est moi qui sais pas m'en servir à 100% encore. Et j'ai pas pris le temps encore de tout regarder. Et en revanche, bon, tous les mecs aux États-Unis, il y a pas photo. Les gars disent oui, c'est la meilleure smartwatch, etc. En revanche, il y a des options. En particulier chez les constructeurs chinois, sur des produits bien moins chers, si vous voulez certains types de tracking, si vous voulez certains trucs dédiés au fitness, etc., il y a évidemment des options qui sont bien moins chères, mais qui sont aussi bien moins complètes. J'avoue que là, je découvre pas mal d'applications que moi, j'utilise depuis très longtemps, qui ont ce qu'on appelle des complications, qui ont des modules, en fait, qui s'installent sur la montre quand ils détectent que t'as la smartwatch, enfin l'Apple Watch, et c'est assez rigolo, et il y a des trucs assez utiles. Il y a des trucs assez crispants, hein, ça, je l'ai vu aujourd'hui quand tu m'as envoyé des messages sur Telegram. c'est-à-dire que j'ai bien la notification, mais quand j'ouvre le truc, la dernière ligne n'apparaissait pas. Donc, ça sent le bug chez nos amis de Telegram. Va falloir faire un effort. Mais le produit est hyper sexy. Et surtout, je suis hyper étonné de la qualité des bracelets que j'ai pu tester. Et, bon, ça, c'est pas nouveau, hein, si vous avez des montres depuis 1000 ans. Mais j'avoue que j'avais résisté pendant très longtemps, parce que je ne mets pas de montre d'habitude.
Bah, pareil.
Voilà, je voulais tester. C'est pour mon grand âge. C'est pour mon cœur.
Et on termine cette section tech avec la fin des enchères 5G, celle qui donne le Covid.
Mais oui, c'est le truc 5G. Alors, je sais plus, il y en a eu des rumeurs sur la 5G. On n'a pas fini de se marrer avec nos amis avec des petits chapeaux en papier d'alu sur la tête.
Fourches.
Voilà, mais là, des fourches. Donc, vous savez qu'il y a des enchères qui sont à chaque fois faites pour les nouvelles fréquences qui, du coup, voient nos amis de chez Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR se taper sur la gueule à coût de millions d'euros. Ça y est, c'est fini, hein, c'est fermé, et c'est Orange qui gagne le plus de mégahertz pour la bagatelle de 854 millions d'euros. Et je vous ai linké une news complète de chez Next Impact qui vous liste qui a gagné quoi et à quel prix. C'est pas hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement, on n'aura pas la 5G telle qu'elle a été entre guillemets promise dès le départ. C'est normal, c'est une mise en place qui va être longue. Et il y a des fréquences qui ne sont pas disponibles. Il y a surtout des choses qui ne sont pas disponibles dans nos téléphones pour avoir les temps de latence ultra courtes dont on a parlé au début de la 5G. Oui, ça sera disponible, oui, ça va exister, mais pas après-demain. Donc, on va rentrer dans une ère un peu bâtarde qui va plutôt s'appeler 4G+, que 5G, je pense. Et puis, faut pas oublier que la 5G, c'est une évolution d'une norme, en fait. Hein. C'est le nom marketing d'un truc qui est en fait une évolution de la même norme depuis la nuit des temps sur la téléphonie mobile. Voilà, ce qui fait que les gens qui pensent que la 5G donne le Covid ou whatever sont vraiment des gens qui ne comprennent rien à la technologie, malheureusement. Sinon, ils auraient compris à quel point c'est stupide. Mais bon, c'est le cas chaque fois, donc on n'est pas, voilà, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Et donc je vous laisse lire ce papier qui vous explique les obligations des opérateurs, les licences, combien de temps elles sont valables. Je vous le dis, 15 ans avec une option de 5, voilà, vous le savez maintenant. Et quand est-ce qu'il faut payer et comment ça va se passer. Donc on attend de voir ça. Orange a déjà annoncé une flopée de forfaits, dont un forfait 5G illimité qui va vous coûter a priori 100€ par mois. Donc on verra ce que ça donne. Je crois que le forfait d'entrée d'Orange, il va être aux alentours de 40€. Donc voilà, il y aura pas mal d'annonces autour de ça bientôt, mais puis il faut savoir que le déploiement est loin d'être fait sur tout le territoire, donc si vous investissez dans ce genre de truc, vous avez intérêt à savoir où, dans quelles conditions vous le faites et qu'est-ce qui est disponible autour de chez vous ou autour de votre boulot, là où vous en avez besoin, parce que, à mon avis, il y a quand même pas mal de coins qui aimeraient déjà avoir de la 4G, même si ça c'est ok, je sais qu'il n'y a plus trop de zones blanches, ça va beaucoup mieux, mais pour la 5G, il reste du taf.
Et c'est la fin de ce 148e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour les gens qui ne sont pas abonnés à Patreon, et le jeudi soir pour ceux qui ont l'abonnement Patreon Geekzone. On vous rappelle d'ailleurs l'adresse, c'est patreon.com/geekzonefr. Et n'hésitez pas à passer, venir nous soutenir, même 1€ tous les mois. Ça peut faire la différence. Et puis, bon week-end, Kef.
Eh bien, bon week-end. Je vais aller tester Twitch Soundtrack en streamant des jeux où je n'ai pas le skill pour jouer. Ça va être passionnant. Vous allez voir, il faut que je me détende, c'est hyper important.
Allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités, le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.